With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous aimez le sexe? Vous aimez les podcasts? Vous aimez le théâtre? Alors pourquoi ne pas venir voir un podcast de sexe au théâtre, bien sûr. Ce dimanche 23 février, Monsieur Poulpe et Camille Emmanuel font crac-crac en public au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Une soirée exceptionnelle avec toutes celles et ceux qui parlent de cul de manière joyeuse et innovante sur Instagram, YouTube ou en podcast. June de Fluissance Club, Camille de Je m'emballe Clito, Benjamin Nevers d'Entremec, Queen Camille, Sophie-Marie Larouille à bientôt te revoir et Lorraine Bastide de La Poudre. Et bien d'autres surprises. Un vrai club du cul 2.0 à 19h au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Prends vite tes places, baby.
Précédemment dans Crac Crac.
Attention, la bombe est là! Avancez, avancez! Où est la bombe?
Équipe Delta, prenez par la tour Est.
Lieutenant, j'ai trouvé la bombe! Décrivez-la moi! 1m90, brun, sexy, les pecs saillants, on dirait bien que c'est Monsieur Poulpe!
Eh oui! Ouais. Bienvenue dans Crac Crac, le podcast qui ne sort pas tous les 15 jours, mais tous les 15 jouirs. Oh! Quel plaisir de nous retrouver dans vos oreilles. Et nous sommes plusieurs à pénétrer vos lobes pour m'accompagner. Camille Emmanuel, bonsoir Camille.
Bonsoir Poulpe.
Mais également Maxime Donzel, salut Maxime.
Salut.
Dans cette émission, on va parler de sexe, on va parler de séries, bref, on va parler de sexe dans les séries. Alors, pas dans les très vieilles séries, bien sûr, hein, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Souvenez-vous, au début, dans les séries, il n'y avait pas trop de cul. Par exemple, on n'a jamais vu l'anatomie de Grey. Ni le Magnum de Magnum, et encore moins le Mimi de Mimi Mati. Mais depuis une vingtaine d'années, on vit une période bénie. Voilà, il n'y a jamais eu autant de séries, mais surtout, il n'y a jamais eu autant de cul dans les séries. C'est fou. Il y a plus de God ceinture sur Netflix que dans le sac à main Nikita Bellucci. Dans Game of Thrones, si on observe attentivement, à un moment, on aperçoit un bout d'intrigue derrière les culs et les seins. Si, si, je vous jure. Bref, en tout cas, on vit plus qu'un âge d'or des séries, c'est surtout les hot d'or des séries. Anulingus, partout, personnages LGBTQ, partout, pegging tous les trois plans, le cul en série n'a sans doute jamais été aussi audacieux, même en France. Car comme disait Benoît Magimel dans la série Marseille...
Vous trouvez pas ça bizarre ? Quand se touche les hommes en parlant de Picasso, hein?
Et merci Benoît, on te fait les bisous. Bref, soyons des trous détectives pour cette émission, parce que le sexe c'est un peu comme la série The Wire. Au début tu galères, tu comprends rien, mais si tu t'accroches ça devient génial, et à la fin bah t'es récompensé quand Idriss Elba sort sa bonne grosse c***.
Merci Poulpe pour cette intro très visuelle. Alors tu sais que j'ai d'autres passions que le sexe dans la vie.
Oui, les cubis de vin rouge.
Ouais, aussi. Mais je regarde énormément de séries, surtout depuis que j'ai un enfant et donc une vie sociale tout aussi passionnante que l'intrigue des deux saisons de Planqueur. Seulement voilà, en tant que journaliste cul, je suis tombée ces derniers temps sur pas mal d'articles alarmistes sur l'impact du binge-watching sur nos vies sexuelles. Petit florilège. Netflix aurait une influence négative sur votre vie sexuelle. Netflix est l'ennemi de votre vie sexuelle. Netflix a un rôle important dans la baisse de libido. Ce sont des vrais titres de presse, chiffres à l'appui. Alors moi, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai paniqué. Parce qu'en y pensant, c'est vrai qu'à mardi soir, à 21h15, entre un cuni et un épisode de Fleabag, ben mon cœur balance pas trop en fait. Mais j'ai mené l'enquête et en fait, tous ces articles sont un peu con-con. Déjà, un, ils mélangent des statistiques qui n'ont rien à voir. Deux, ils foutent la pression au couple sur le sexe en mode « Oh mon Dieu, vous ne baisez pas 4 fois par semaine, malheureux !» Et trois, ils créent une nouvelle maladie qui serait l'addiction aux séries. Alors que quand j'avais 18 ans et que je passais mon week-end entier sans me laver à lire des romans, bah personne ne me traitait de drogué en fait. Les séries d'aujourd'hui parlent de sexe et peuvent nourrir notre imaginaire sexuel. J'ai fantasmé sur Kevin Bacon dans I Love Dick pendant des semaines. Mon mec est devenu dingue du personnage de Nurse Elkins dans The Nick et on a tous les deux très très envie de faire l'amour à Billy Bob Thornton, le méchant de la saison 1 de Fargo. Bref, fuck les articles à la con qui nous font flipper, vive le binge-watching et même le binge-listening. Et qui dit série, dit casting exceptionnel, avec nous ce soir l'autrice Iris Bray et la scénariste et réalisatrice Cathy Vernet.
Bonjour les filles.
Bonsoir.
Enfin, bonsoir, oui, on bonsoir. Est le soir, pardon, je me fais toujours avoir. On aura aussi, hélas, hein, Maxime Donzel pour sa rubrique Culture Beat. Nous aurons également un reportage sur une série audio, mais j'en dis pas trop parce que je veux pas spoiler l'émission, donc je vous propose qu'on y aille tout de suite.
Iris, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu as écrit un ouvrage référence sur la question des séries et des sexualités qui s'appelle « Sex and the Series » aux éditions de l'Olivier. Et tu viens de sortir « Le regard féminin, une révolution à l'écran ». Et dans ton travail, en fait, tu démontres qu'on est passé dans un monde hollywoodien qui montre sans arrêt des femmes comme des objets de désir qu'on peut prendre un peu à volonté, à un nouveau monde moins sexiste, plus hybride, plus moderne. Et en fait, c'est quoi, selon toi, les séries qui ont marqué le tournant ?
Il y en a pas mal qui ont marqué le tournant. Je pense que Sex and the City a marqué un premier tournant parce qu'on s'est rendu compte que bah, les femmes avaient du désir et se masturbaient et pouvaient passer des journées à se masturber et qu'on n'avait pas besoin d'hommes pour jouir. Donc ça, c'était une première révolution. Après, je pense que Lena Dunham avec Girls, elle a montré des nouveaux corps à l'écran et elle a surtout montré que le cul, ça pouvait aussi être nul. Et ça, c'était une autre évolution. Parce qu'il faut dire que quand même, les premières fois, c'est pas toujours très joyeux. Ça peut même être très angoissant.
Et les deuxièmes non plus, d'ailleurs.
Absolument, même toute sa vie, parfois, notamment si on est Lena Dunham. Donc, il y a eu ça. Et puis après, pour moi, il y a Jill Soloway qui arrive avec Transparente et I Love Dick. Et là, on passe à un autre niveau parce que c'est une réinvention des sexualités de personnes cisgenres ou transgenres, hétéros ou non, qui se cherchent ou non. Et on voit beaucoup de personnes qui cherchent leur désir et on voit que c'est compliqué, mais que si on s'accroche un peu, ça peut être assez jouissif.
Pourquoi il y a plus de modernité pour représenter le cul dans les séries plutôt que dans le cinéma ? Comment ça se fait ?
Alors moi, je parle de sexualité féminine, donc c'est un peu différent. Je pense qu'on voit plus de sexualité féminine dans les séries, tout simplement parce que les scénaristes ont eu un peu plus de pouvoir. Et puis les sexualités, c'est quelque chose qui évolue, donc c'est quand même le principe de la série, c'est qu'on suit des personnages et c'est de comprendre que une sexualité, elle peut être mouvante toute une vie et que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se construit et qui aussi se déconstruit. Et je pense que du coup, l'univers sériel permettait ça, en fait, de voir vraiment l'évolution des personnages avec une évolution de leur vie sexuelle et que c'est pour ça que c'est devenu passionnant et qu'il y a aussi des femmes de pouvoir qui se sont mises à écrire des rôles féminins où on passait du temps avec ça. C'est-à-dire que Sex and the City, c'était showrunné par des hommes, enfin c'était deux créateurs hommes, mais il y avait beaucoup de femmes dans la salle d'écriture. Elles m'ont dit que un jour, elles avaient dû dessiner en fait un clitoris devant les showrunners qui sont des hommes gays, qui ne connaissaient pas l'anatomie féminine. Donc voilà où on en était en fait à la fin des années 90. Et puis après, on a eu Jenji Cohen avec Orange is the New Black, on a eu Jill Ouais, on a eu des femmes politisées qui ont compris que le sexe aussi c'était politique et qu'il fallait faire passer des nouvelles idées avec les scènes de sexe.
Il y a souvent dans les grosses séries blockbusters type HBO, etc., maintenant c'est quasiment synonyme de scènes de sexe, quasiment une par épisode. Est-ce que c'est devenu un argument marketing ?
À une époque, il y avait carrément un cahier des charges où il fallait qu'il y ait tant de scènes de sexe par épisode. Ouais. Donc ça faisait partie en fait de la marque HBO.
Et moins de censure aussi peut-être du coup ?
Du coup, beaucoup moins de censure. Par exemple, sur ABC, qui est notre équivalent de TF1, on n'a pas le droit de dire le mot clitoris. Donc ça change beaucoup de choses. Alors que sur HBO, on peut tout montrer, on est censé pouvoir tout dire. Après, les séries HBO qui ont vraiment marqué notre époque, Game of Thrones, a été assez catastrophique dans la manière dont on représentait sexualités féminines. Ouais. Mais après, ça a aussi été un endroit où on a pu inventer des nouvelles choses. Et je pense que sans Darren Star et Sex and the City, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui.
Donc. Pour revenir juste sur Game of Thrones, en fait, toi, c'est vraiment une série que tu critiques. Tu as fait un TEDx, en fait, où à un moment donné, tu commences l'intro de TEDx en démontant un peu de façon efficace la série. Mais on a aussi dit que la série représentait une diversité de personnages féminins.
Déjà, je ne vais pas célébrer une série juste parce qu'il y a des personnages féminins.
Bravo les gars.
Voilà. Et deuxièmement, les scènes de sexe pour moi étaient tellement problématiques, notamment dans la représentation des viols qui étaient toujours érotisés. Quand on sait que c'est vu par des millions de personnes, ça m'interroge. Et en fait, ce qui m'interroge encore plus, c'est quand je lis des interviews en fait, des personnes qui réalisent l'épisode et de l'acteur qui joue la scène et qui se rendent pas compte qu'il est en train de jouer un viol et que le réalisateur dit que au début de la scène c'est un viol mais à la fin c'en est plus un. Je me dis que c'est vraiment problématique parce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas réfléchi à ce que voulait dire le sexe et la sexualité et n'ont pas compris aussi l'impact que ça pouvait avoir et que en fait la mise en scène ça crée du sens.
Dans ton dernier livre Le regard féminin, tu analyses le female gaze. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors en deux secondes et demie. Restez
Top,
avec
c'est
moi,
parti.
C'est parti. Alors à la base, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le male gaze. Donc, c'est un regard masculin. C'est théorisé en 1975 par Laura Mulvey dans la revue Screen, qui explique que dans le cinéma hollywoodien, on a pris l'habitude, nous spectateurs, spectatrices, de s'identifier avec le héros. Et le héros désire en regardant les femmes comme des objets. Donc, on a construit toute notre libido sur l'idée que, bah, il fallait regarder l'autre comme un objet pour bander. Aujourd'hui, on en est où? Et bien, tout simplement, il y a aussi le regard féminin qui existe. C'est quoi le regard féminin? C'est l'idée de sortir, en fait, dans l'identification du spectateur ou de la spectatrice avec le héros, mais de se dire, est-ce qu'on peut ressentir qu'est-ce que c'est que l'expérience féminine? Donc, c'est pas de regarder un personnage féminin, c'est d'être avec le personnage
dans
féminin.
Dans l'empathie?
Pas dans l'empathie, dans son ressenti. Et donc, c'est une révolution. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est dans plus d'égalité et qu'on comprend qu'on peut jouir sans dominer, eh ben, y a un autre monde qui s'offre à nous.
Si tu aurais un exemple typique de male gaze et un exemple typique de female gaze dans les séries, ça serait quoi?
Alors, le male gaze, c'est To Game of Thrones. et le female gaze, on pourrait parler de Fleabag,
ouais,
par exemple,
Fleabag.
Où on est vraiment dans la tête de l'héroïne pendant les scènes de sexe, où on n'est pas dans l'objectification de son corps à elle. On pourrait parler d'I Love Dick dans des choses qui sont un peu moins connues, mais on pourrait aussi parler de The Handmaid's Tale, où on est vraiment dans le corps et dans la tête de June quand elle se fait violer à répétition.
Est-ce que c'est compliqué pour des réalisateurs hommes de faire une série female gaze? Par exemple, est-ce que c'est l'enfer de mettre un réalisateur homme sur Fleabag?
Non, c'est pas un enfer. D'ailleurs, la plupart des épisodes de Fleabag sont réalisés par un réalisateur homme. On peut regarder Big Little Lies, c'est Jean-Marc Vallée, c'est un réalisateur homme. Pour moi, le female gaze, c'est un geste conscient de scénariste, de réalisation, alors que le male gaze, souvent, ça découle en fait d'un inconscient patriarcal qu'on partage tous. Donc le female gaze, ça demande un peu de travail. Donc il faut trouver des mecs qui n'ont pas peur de bosser et de réfléchir.
T'en parlais tout à l'heure, donc t'es fan de I Love Dick. Ouais. Et en quoi cette série donc de Jess Holloway et Sarah Gubbins pour toi est emblématique en fait du female gaze contemporain que tu défends?
J'ai 2 heures. Non, alors,
je suis aussi fan, donc on peut parler entre nous pendant 2-3 heures.
On en a déjà parlé d'ailleurs ensemble à quel point I Love Dick peut réveiller votre sexualité. Déjà, c'est intéressant parce que le personnage principal est une femme quarantenaire qui est mariée depuis 20 ans et qui s'embête dans sa sexualité et qui va s'autoriser à fantasmer sur un autre homme et à faire participer en fait son mari dans cet univers fantasmatique qu'elle va créer. Et surtout, c'est une série qui sort les personnages féminins d'un rôle de mère, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la procréation, on est dans la création et c'est ça qui apporte du désir.
Mais Poulpe, je suis un peu surprise là en fait. Ça fait au moins 10 minutes qu'on parle, t'as toujours pas d'anecdote?
Ah mais si, j'ai une anecdote sur le thème de l'émission.
Ah cool.
Monsieur Poulpe a une anecdote sur absolument tous les thèmes de l'émission.
Elle est un peu tirée par les cheveux, j'annonce. J'étais en dédicace pour une série que je sortais en DVD. J'étais dans une convention de jeux vidéo. Et à côté de moi, dédicacé, le professeur Arturo de la série Sliders, Les Mondes Parallèles sur M6 dans les années 90.
Ouais,
voilà, je vois déjà que je perds des gens autour de la table. Mais c'est aussi le meilleur copain de Indiana Jones. C'est son pote barbu qu'il y a dans tous les films d'Indiana Jones. Donc j'ai le professeur Arturo à côté de moi. Et on dédicace et tout. Il y a des gens voilà, qui sont en face de nous et tout. Et donc cette émission, elle parle de sexe et de séries. Okay. Et le professeur Arturo, il m'a dit « Waouh, ta queue est vachement plus longue que la mienne. » Voilà, c'est à peu près, ça rentre à peu près dans le thème de l'émission. J'avais pas d'autres anecdotes, donc
anecdote.
Ouais. Merci.
C'était l'anecdote de Monsieur Poulpe sur tous les thèmes de l'émission.
Alors vous savez, dans les séries comme par exemple Mission Impossible, il y avait plein de gadgets high-tech trop bien. Nous aussi, dans cette émission, on a un répondeur.
ouais.
Donc j'ai demandé un peu au boss du game des séries françaises de nous raconter une anecdote sur notre répondeur. Vous voyez bien sûr de qui je parle. Je parle de Patrick Puitbat, aka Nicolas d'Hélène et les garçons. Et plus récemment, Nicolas des Mystères de l'amour. Alors je le rappelle, quand même une moyenne de 800 000 téléspectateurs par épisode. Et là, tout le monde ferme bien sa gueule. On va écouter Patrick Puitbat.
Alors, il m'est arrivé un truc un peu particulier. J'ai testé le Viagra avant qu'il sorte en France. Il venait des États-Unis. C'est quelqu'un de la production qui m'avait procuré ça en me demandant d'essayer et de me dire ce que ça donne. Bref, j'ai essayé avec ma copine de l'époque. Au bout de 3 heures, elle n'en pouvait plus, elle m'a juste demandé de lui foutre la paix. Et moi, j'ai passé le reste de la nuit avec le zboob sous l'eau glacée en souffrant le martyr. Voilà. Et c'était pas évident, et c'est comme ça que j'ai appris le mot priapisme. Allez, ciao à tous.
Merci Patrick Puydebas, on te fait un gros bisou et on peut le retrouver tout le temps dans Les Mystères de l'amour sur TMC. On fait un gros bisou à Patrick et je sais qu'il a des projets de nouvelles séries, donc je te fais un big up pour tes projets. On parle de séries télé jusqu'à présent, mais il y a un truc qui se développe en ce moment beaucoup en France, c'est la fiction audio. Le podcast, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, non. Donc, il y a de la fiction en podcast. Et donc, toi, Camille, comme tu es une obsédée sexuelle, on peut te qualifier à peu près de ce petit sobriquet. Tu t'es intéressée à la série audio de cul française.
Ouais, ça s'appelle Plus sexe la vie. Et j'ai rencontré Stéphanie Estourné, sa showrunneuse. Bonjour Stéphanie. Alors, tu es créatrice de Plus sexe la vie, une série audio sexe. Est-ce que tu peux me faire un petit peu le pitch de cette série audio?
C'est Rosa. Rosa, elle monte à Paris pour retrouver son amant, un amant qu'elle avait perdu. Et en fait, elle ne le retrouve pas. Mais par contre, ce qu'elle trouve, c'est une sexualité, parce qu'elle va vivre plein d'aventures, toutes sortes d'aventures. Et Rosa, elle va se découvrir un super pouvoir, en fait. C'est qu'elle elle jouit en latin.
Ouais, justement, le fait qu'il y ait pas mal de passages explicites, ça apporte de la difficulté, en fait, à l'écriture d'une série audio.
La grande difficulté, ça a été à la fois de raconter une histoire et d'avoir ce double niveau avec le sexe explicite. L'autre idée qui, pour nous, est super importante dans ce qu'on fait, c'est de représenter les sexualités d'une manière plurielle. Rosa, par exemple, se retrouve à un moment avec deux mecs qui sont profondément hétéros, mais qui veulent pas d'elle et qui vont se finir ensemble. Voilà, c'est le genre de truc qu'on va entendre.
Est-ce qu'on peut aller voir ensemble, en fait, comment vous produisez, comment vous réalisez la série ?
Eh ben, on y va.
Donc Stéphanie, tu m'amènes dans les coulisses de Plus sexe la vie. Bonjour, vous êtes Marc ?
Je suis Marc, bonjour.
Le réalisateur de cette série.
Bienvenue.
Merci.
Donc c'est le petit labo où on s'autorise tout. Très simplement, la technique, d'abord on enregistre les voix. Donc l'idée, c'est comment on les habille. Nous, ce qu'on privilégie, c'est une espèce d'impressionnisme sonore. Pas forcément décrire, pas forcément représenter quelque chose de très précis, ni être complètement dans l'abstrait. C'est-à-dire juste évoquer une ambiance sonore pour créer un univers mental. Et là, l'auditeur, l'auditrice, peut s'imaginer plein de choses. Quoi. On a un épisode où notre héroïne se retrouve dans un Uber en fin de soirée avec deux mecs. Elle espère bien qu'elle va passer un agréable moment avec ces deux mecs. Et puis malheureusement, c'est les deux mecs qui vont passer un bon moment ensemble.
J'ai aussi assorti ça avec eux. Il prend ma main. La pose dessus.
On part sur une espèce d'ambiance d'intérieur de taxi qui est très très floue. Et puis après, on va partir dans un jeu de pluie, d'essuie-glace, etc. qui vont être liés au plaisir qui monte chez les deux mecs en train de se caresser. Et évidemment, la pluie comme symbole de la finalité de ces caresses. En gros, ils vont se branler, ils vont se faire éjaculer, et puis on va entendre la pluie, quoi, parce que ça coule partout. Voilà.
Et donc, vous faites aussi le travail de bruiteur ?
Alors, je le fais moi-même. Mon accessoire que j'adore, c'est le poulpe mort. Parce que vivant, il n'est pas toujours très, très coopérant, très coopératif.
Ça fait quoi, le poulpe mort ? J'imagine que les voix sont évidemment très importantes. Est-ce que je peux essayer ?
Ah ouais ! Oui.
Pour faire partie de la saison.
Voilà, on a une saison 2 à faire. Hein. Donc, viens. Moi, je te propose de reprendre le rôle de Rosa. Elle est dans une scène où une représentante en sex toys vient d'arriver chez sa copine Mad et elles sont toutes les trois. Les sex toys sont par terre. On a tendu une bâche. Elle ne sait pas trop pourquoi. On a tendu une bâche par terre. Et c'est à toi maintenant.
Bon, alors, c'est mon premier casting, donc il faudra être indulgent. Plus sexe la vie, épisode 10, extrait. Déby me fait signe de venir. Avec son petit air de mignonne et son accent comme du machamallow, elle me demande si je peux l'aider. Elle prend ma main, ma pose sur son clito. Derrière, Mad gémit et je perçois l'odeur de son fluide. Je le reconnais de l'autre jour dans la boutique. Déby pousse de petits cris aigus. Elle jure « Fuck, yeah, oh, yeah ». Le jet d'eau de Genève qui s'est invité entre ses cuisses. Une quantité de liquide incroyable, un flot puissant, un torrent de printemps. Oh, Sainte Rita, quel déluge! Jupiter, Vénus, Jésus, Marie, Joseph, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. j'ai fait 6 ans de latin, les gars. Ça se voit, non? Ça s'entend?
Bon alors, je m'en suis sortie comment pour ce premier casting, Plus sexe la vie? Le latin, c'était très bien. Très bien. Ah ouais. Et c'est pas facile de trouver une comédienne qui sache faire le plaisir et le latin.
On trouve un rôle.
Ouais, c'est vrai.
On lui écrit un rôle.
Bon, on a très hâte d'écouter la suite de Plus Sexe la Vie alors. Merci à tous les
merci
deux.
Merci Camille.
Tu es vraiment la Jack Bauer du journalisme. C'est-à-dire que tu travailles que 24 heures par mois, c'est ça à peu près?
Attends, excuse-moi, on m'appelle, j'ai du taf.
Waouh, ok. Mais je le vois, il est là avec son chapeau melon et sa bite de cuir. C'est Maxime Donzel. Ça va, Maxime?
Ça va et toi?
Très bien. Maxime, j'hésite. Si ta bite était une série, elle s'appellerait Big Little Lies ou American Horror Story?
On va partir sur True Blood.
True Blood. L'horreur absolue. Ok, tout le monde se met sur les starting blocks, car voici Maxime et sa rubrique Culture Beat.
Et oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout. Alors je viens vous aider à trouver du sexe dans la pop culture. Alors pour cette spéciale sexe et série, j'ai eu comme un flashback. Je me suis souvenu d'une époque, il y a bien longtemps, où pour voir des gens tout nus, bah il suffisait pas de dire « Siri, montre-moi des zizi ».
Très bien, voici des zizi.
Oh merde, pardon, j'ai oublié de... Ah, elle est pas mal celle-là. Bon, concentre-toi. Oui, jadis, quand nous étions des jeunes obsédés, bah c'est grâce aux séries qu'on pouvait un peu se rincer l'œil. Que serions-nous sans les collants de Thierry Lafronde, le torse velu de Magnum, les fesses moulées des flics de Chips? Même à la télévision française, il y avait moyen de mater, notamment avec la série Les Brigades du Tigre, qui avait trouvé la bonne excuse pour balancer de la nudité. Ça se passait dans les années 20. Ah bah, et les années folles, et ces artistes qui peignent des modèles seins nus, ces policiers qui font de la boxe française en maillot de corps, ces rapports hommes-femmes d'un autre siècle.
J'ai renvoyé les domestiques pour être seul avec vous. Je veux que cette soirée soit un feu d'artifice.
Dieu, quel homme!
Alors, désolé, mais en fait, même mon amour pour les moustaches ne me permet pas de supporter ça, je suis désolé. En fait, pour montrer des mecs pas mal, il fallait qu'il y ait une raison si possible absurde, et dans les années 80, aucune excuse n'était trop énorme. Un homme venu de l'Atlantide vit sa vie quotidienne en slip jaune. Dans Code Quantum, un mec voyage dans le temps et perd ses vêtements au passage, on sait pas pourquoi, mais le meilleur, c'est James West, dans Les Mystères de l'Ouest, qui dans quasiment tous les épisodes se retrouve nu et attaché, son torse poilu, bronzé et musclé, bien en évidence.
Je suppose que chacun de nous a son style. Je suis du type passif. Et vous, qu'êtes-vous exactement?
Oh ben, on sera du type actif sans problème, on peut toujours s'arranger. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les séries d'antan pouvaient se permettre des choses surprenantes. Par exemple, saviez-vous que les séries d'AB Productions étaient un must pour les fétichistes des pieds? C'est le site sitcomology.net qui le révèle, les séries d'AB Prod sont truffées de plans de pieds nus. Pose de vernis, massage de la voûte plantaire, relation SM maître-esclave des pieds.
En fait, merci.
Merci pour quoi?
Pour m'avoir permis d'être votre esclave et de vous embrasser les pieds. C'était merveilleux.
Bon, ok, j'y comprends rien, mais c'est pas grave.
Et oui, dans Hélène et les garçons, il y a plus de plans de pieds à la minute que dans toute l'œuvre de Tarantino. Alors, comment ont-ils fait pour glisser autant de perversions discrètement à une heure de grande écoute? Eh bien, ma théorie, c'est qu'avec quelques rires enregistrés et des jingles, bah, tout glisse beaucoup mieux, hein, et les scènes les plus audacieuses passent crème. Alors, pour tester cette théorie, prenons un porno, prenons même un des pornos les plus trash de l'histoire, tant qu'à faire. Je vous propose d'écouter Chic Shit 5, un porno scato, et faisons-en une sitcom pour voir si ça choque moins.
J'ai recouvert ma petite bite avec la mère de ma mère. Et je me suis branlé avec.
Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît.
C'est bien chiant que ça va être chaud ce soir.
Et ben voilà, hein, il faut pas sous-estimer le pouvoir des séries. Ça commence avec des hommes attachés et un jour on pourra voir des gens qui mangent du caca.
Très bien, voici des photos de gens qui mangent du caca.
Ah non, non.
Bravo, merci Maxime. Si tu étais une série, tu serais sans aucun doute Six Feet Under.
Bravo.
Merci Maxime.
On continue crac crac sexe et série avec notre deuxième invitée, Cathy Vernet. Alors Cathy, tu as écrit et réalisé deux saisons de la super série Hard, diffusée sur Canal+. C'est une comédie qui a comme décor les coulisses d'une production porno française. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de t'intéresser à cet univers?
J'adorais le porno. Non, c'est pas... je ne connaissais pas très bien ce milieu. Mais c'est en fait des producteurs qui m'ont proposé d'écrire une comédie dans le milieu du porno. Et c'était des hommes. Eux, ils voyaient plus une histoire avec les acteurs dans ce milieu-là. Et moi, j'ai proposé de m'introduire, sans faire de jeu de mots pourris, dans ce milieu par une femme qui ne connaissait pas, en fait, qui était plus de mon milieu. Donc, bourgeoisie de l'Ouest parisien et qui perd son mari dès la deuxième minute de la série et qui est obligée de reprendre en main son entreprise, qui est donc une production de porno. Il lui avait menti, il lui avait caché toute sa vie. Et si elle veut garder le même niveau de vie, la belle maison, des bonnes écoles pour les enfants, elle est obligée de mettre les mains dedans. Et donc, voilà, moi, ça me plaisait de pénétrer ce monde avec ce regard innocent et très loin de tout ça.
C'était une grosse sortie de ta zone de confort quand même en termes d'écriture de...
Oh bah, c'était même une naissance, on va dire, une sortie. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première série que j'ai écrite. Avant, j'avais écrit des courts-métrages, j'avais écrit pour le théâtre, mais c'était vraiment ma première série sérieuse, produite. Voilà.
J'ai l'impression que tu t'es fortement inspirée de Dorcel, en fait. Est-ce que tu allais faire du repérage dans des boîtes porno comme Dorcel?
J'ai fait plein de repérages. J'ai été, en effet, chez Grégory Dorcel. Et j'ai aussi été dans d'autres boîtes de prod, beaucoup plus familiales. Et du coup, je me suis beaucoup plus inspirée de John Birut pour la petite boîte du
familial, entre
voilà,
guillemets,
mari de notre héroïne. Et oui, je me suis beaucoup inspirée de lui. Je dois dire que je l'ai même rencontré dans son bureau. Il m'a fait des sorties extraordinaires qui sont des dialogues de la série.
Ah ouais.
Ouais, quand je suis arrivée, il m'a tout simplement dit, bah, je t'en prie, fais attention, il reste encore un peu de sperme sur le siège.
Il a dit ça au premier degré.
Je sais pas trop. voilà. Après, il m'a emmenée dans sa salle de montage. Et j'ai assisté au montage, à un visionnage de la scène d'éjaculation accompagnée de l'actrice. Et donc tout ça, je l'ai gardé. Ça a été en effet beaucoup d'inspiration.
Comment est-ce qu'elle a été reçue à l'époque, la série? Parce que c'était une grande première quand même.
Elle a été bien reçue. Et ils étaient contents de ne pas avoir un regard trop graveleux en fait, sur ce milieu. Et c'était plutôt l'occasion de parler du désir féminin, justement, de la représentation de la sexualité féminine. Et moi, c'est ça qui m'a le plus intéressée, en fait, c'est d'aller... questionner des femmes, j'ai enquêté, parce que quand j'ai pris le projet, je me suis dit, ok, mon héroïne, il va falloir qu'elle fasse du porno. Elle va forcément vouloir faire du bon porno, sinon elle y va pas. Et du coup, je me suis demandé, mais ça serait quoi un porno pour les femmes? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup, franchement, à l'époque.
Non, à l'époque,
en tout cas, moi,
j'en
regardais pas trop.
Productions alternatives.
Non.
Enfin, il y en a encore très peu.
Non, il y en a encore très peu. Du coup, j'ai questionné plein de femmes. Non, mais ça serait quoi le porno que tu voudrais voir? M'ont répondu, mais moi, j'ai pas envie de voir de porno, en fait. Ça m'excite pas. Moi, j'ai besoin de fantasmer, en fait. J'ai besoin de rêver. Je suis plus dans l'imaginaire. Du coup, mon héroïne s'est dit, bah, ok, donc en fait, je vais monter une boîte de fantasmes qui réalise les fantasmes des femmes.
En 2019, tu as réalisé la série Vernon Subutex. Bravo, déjà.
Oh, bah, merci beaucoup.
Adapté des romans de Virginie Despentes. Il y a des scènes de sexe dans Vernon. Comment on met en scène une scène de sexe dans une série traditionnelle? Comment ça se passe? Parce que moi, j'en ai fait, mais dans le porno. Donc, moi, je sais comment on fait. Mais en série traditionnelle, je ne sais pas.
Ouais, je vais rejoindre ce que disait Iris, en fait. C'est une question de point de vue, en fait. Et ce qui est le plus important, c'est la montée du désir, hein, beaucoup plus que l'acte en lui-même. Et c'est où est-ce que tu places la caméra, en fait. Qui tu regardes et qui regarde. C'est pas de l'empathie, en effet, c'est plutôt vivre l'expérience avec la personne qui est ton regard, quoi. Et du coup, ça détermine ta façon de la mettre en scène et de la réaliser.
Et tes comédiens et comédiennes, comment tu les diriges?
C'est des équipes réduites, j'en parle énormément avant. En fait, avec eux. Ouais, pas forcément tous ensemble, parfois chacun à part. Et je leur demande, voilà, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit, jusqu'où on peut aller, comment ils voient la scène. Donc on en parle énormément. Du coup, il y a une espèce de grande confiance. Ils savent que jamais j'irai filmer ce qu'ils n'ont pas envie que je filme. Jamais, quoi. Je m'engage, c'est un respect.
Alors, aux États-Unis, il y a de plus en plus de coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Donc c'est des gens qui sont là pour rassurer, conseiller les acteurs et actrices quand ils tournent justement voilà, des scènes de sexe. Est-ce que tu penses que ça va arriver en France? Est-ce que toi, t'en aurais l'usage dans le futur
Moi, je pense que ça va arriver en France et c'est très bien. Moi, je trouve ça évidemment très bien que ça existe. Il y a trop de dérives. Franchement, moi, j'ai été actrice et tu n'oses pas dire quand t'es jeune, oh, maintenant, j'ai pas très envie de me mettre nue. T'as l'impression que tu vas ralentir tout le monde.
Ouais.
Que tu as l'air d'une coincée, etc. C'est dur de s'imposer. Donc, c'est très bien que ça existe. Je pense que ça doit être obligatoire de proposer à l'actrice et à l'acteur, est-ce que tu veux un ordinateur d'intimité? Je pense qu'il faut que ça soit un intermédiaire qui discute avec les acteurs et que, sans le réel, peut-être du coup, les langues vont se libérer et que les acteurs et les actrices vont dire « Non, ça, je ne veux pas le faire, j'ose pas le dire. » Donc, c'est très bien. Après, il faut qu'ils soient présents sur le plateau.
Alors, ouais, moi, je suis en train de réaliser un documentaire sur ce sujet.
Sur les coordinateurs et coordinatrices d'intimité.
Oui, parce que je trouve que, justement, c'est intéressant qu'il y ait un métier qui sorte de MeToo, en fait. Ça nous interroge vraiment sur juste la création et, justement, peut-être une nouvelle esthétique, donc peut-être une nouvelle révolution. Et donc, effectivement, ils ne sont pas du tout metteurs en scène.
humaine. Mais ce que ça force à faire, en fait, un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité, c'est de poser la question des cadres et donc de la mise en scène. Et donc, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui, même au scénario, écrivent juste et maintenant ils baisent, sauf que rien n'est spécifié. Et que du coup, d'avoir une personne comme ça référente permet de réfléchir vraiment à ce que la scène de sexe va dire et comment est-ce qu'elle va être filmée et le sens que les images vont avoir. Il faut expliquer à tout le monde ce qu'on veut filmer et comment on va le filmer. Donc, ça demande beaucoup plus de préparation. Et les acteurs et les actrices doivent aussi beaucoup plus réfléchir à ce qu'ils ont envie de montrer.
Tu t'es enseigné, c'est quoi le profil des coordinatrices, ouais, coordinateurs, c'est des gens qui viennent d'où ?
Des cascades. Parce qu'en fait, le sexe, c'est des cascades. Beaucoup, ouais, y en a certaines avant qui étaient cascadeuses. C'est des doublures, d'accord. C'est des personnes qui ont beaucoup... Alors après, il y en a d'autres qui viennent de la danse. C'est un métier qui est en train de s'inventer. Donc il y a plein de profils là qui en sont en train d'émerger. Donc c'est intéressant.
Cathy, aujourd'hui, il y a une demande de la part des diffuseurs d'inclusivité et de représentativité de toutes les sexualités dans les séries. Ce qui est plutôt un but assez noble. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que le diffuseur influe sur l'artistique? En imposant, par exemple, oui, je veux 3 scènes gays dans ma saison, un personnage transgenre, etc.
Personne ne m'a jamais imposé un nom de séquence. Non, c'est du bon sens. Hein. Enfin, je pense qu'on a tous envie de ça.
Pour le coup, tu parlais d'Iris de HBO qui avait dans son cahier des charges vraiment...
Oui, à une époque, mais je pense que ce qui est très intéressant dans Verdun Subutex, c'est que quand même, on se rend compte qu'on voit des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos écrans. En fait, il y a des personnes qui sont déjà conscientisées, qui se rendent compte que tout le casting... C'est des personnes blanches, minces, qui répondent à des normes. Et quand on lit un scénario, la plupart du temps, on imagine des personnes blanches.
Cathy, une dernière question est sûrement la plus importante de cette émission.
Oh, attention.
Tiens-toi droite, Cathy, attention. Peux-tu nous parler de l'affaire de la touffe numérique?
Avec la musique comme ça, là, ouais. Est-ce que c'est vraiment... On est dans affaire scandaleuse, je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait une scène dans Verdun Subutex avec Inès Rowe, qui est donc une trans, une jeune femme qui a fait sa transition. Et cette jeune femme m'a beaucoup aidée dans le tournage, en fait, de comment raconter son parcours et comment filmer une scène sexuelle entre donc elle et Romain Duris. Et je lui ai vraiment demandé, mais comment tu fais, toi? Comment t'as fait? Parce qu'elle, ouais. elle a fini sa transition, mais au moment où elle l'avait pas fini, comment... À quel moment t'en parlais à tes amants, etc. Comment tu faisais? C'est quand même, ça s'invente pas. Et donc, c'est vraiment elle qui m'a aidée à écrire les dialogues. Et elle l'a fait d'une façon hyper généreuse. Et je trouve que le dialogue est hyper touchant. Parce qu'elle m'a dit, mais moi, j'ai tellement peur à chaque fois. J'avais peur de m'en prendre une, de comment va réagir le mec. J'avais, parfois, ça a été violent. Du coup, j'ai toujours choisi de le dire au meilleur moment. Mais c'était jamais le meilleur moment. C'était toujours trop tard. Enfin, donc, ça m'a vachement touchée. Et ensuite, comme elle a fait sa transition... Elle m'a dit au moment du casting, moi je suis OK pour jouer quelqu'un qui n'a pas fait sa transition, mais je ne veux pas du tout qu'on filme, je ne veux pas que mettre une fausse bite, je ne veux pas reculer en fait. Et donc je me suis engagée évidemment à ne pas filmer. Ce que j'ai fait, je n'ai pas filmé, mais il y a quand même un moment où elle sort d'un bain et on aperçoit vaguement un petit peu, et à ce moment-là, c'était donc, il n'y a pas d'effets spéciaux, une chatte rasée. Et donc, je monte le truc et je suis hyper emmerdée parce que je dis, mais comment je fais? Je ne peux pas laisser, puisque dans l'histoire, il n'a pas fait sa transition. Et je m'étais engagée. Du coup, je dis, on va mettre une touffe, quoi. On va mettre en numérique plus de poils. Et comme ça, ça sera une ombre, parce que c'était vraiment, on parle d'un, c'était de 3/4, ça se voit quasiment pas. Hein. Et du coup, j'ai demandé à la post-prod de mettre une touffe. Et j'ai expliqué l'histoire, comme j'avais beaucoup de dossiers en cours, ils ont mal compris et ils m'ont renvoyé le montage avec une fausse bite.
Ah merde.
Qu'ils avaient fait en numérique.
Mais non.
Si. Et j'ai dit, non, jamais, je me suis, mais jamais ça. Je me suis engagée. J'ai dit, tout, surtout pas. Enfin, c'est par respect pour l'actrice, jamais je ferai ça. Donc non, vous la retirez. Et après, ça a été un mois, je crois, d'épaisseur de tout.
C'est le moment interactif, le moment où on donne la parole aux internautes. À chaque épisode, tel Dr House, équipé de notre sonde et de notre canne, nous pratiquons une coloscopie des forums du web pour en retirer les meilleures questions sur le thème de l'émission. C'est le moment de Doctissimoche. Un jingle, Maxime, s'il te plaît.
Doctissimoche.
Merci.
Wow, il est hyper bien.
C'est pire en pire.
Allez, je vais lire une question, donc on va essayer d'y répondre, ok? Je sens que vous en avez marre.
Non, pas du tout.
Ok. Alors, la première question, donc c'est un internaute ou une internaute qui s'appelle Phil27EK. Avec mon copain, j'avoue qu'on fait souvent l'amour sur le canapé sans éteindre la télé. J'ai l'impression que souvent, il jette un œil sur l'écran, surtout quand il y a des séries. Déjà, je trouve ça dommage de le faire dans le salon. En plus, c'est un peu vexant, même si moi aussi, ça m'arrive de regarder un peu, si ce n'est que 2 secondes. De temps en temps, lol. Bref, à qui est déjà arrivé ce genre de situation? Le ou la partenaire regarde la télé pendant l'acte. Ça vous est déjà arrivé ou pas?
Mais qui a encore des télés aujourd'hui? La première question. Qu'est-ce qui peut être diffusé à la télé aujourd'hui? Je ne sais pas.
Aucun intérêt.
Il faut surtout changer de partenaire.
Ouais, c'est ça, c'est que son mec s'emmerde avec elle. Voilà, hein, et qu'il est addict à Game of Thrones. Et qu'il faut
bon,
qu'il...
si tu nous écoutes, Phil 27K, il faut donc choisir quelqu'un d'autre. Une autre question de Chaos Runt. Être amoureux d'un personnage de série, c'est plus pathétique que d'aimer une meuf de manga ou moins? Smiley. Si aimer une meuf de manga, c'est 10 sur 10. Être attiré par la personnalité d'une meuf de série au point de chercher dans la terre entière une meuf qui ressemble, c'est fou à 7 sur 10, 5 sur 10 ou 0 sur 10? Attends, j'ai besoin de relire parce que je comprends pas la question.
C'est quand même plus pathétique, je pense, d'être amoureux d'un personnage de manga.
Hein, tu trouves?
Moi, je suis pas sûre. Moi, je trouve ça pas si pathétique que ça. Je pense que ça peut ouvrir un imaginaire, quoi.
Le manga?
Bah, le manga ou la série. Ah, mais la série, de la fiction.
Je demande si c'est plus ou moins pathétique par rapport au manga. Moi, je pense que c'est moins pathétique de tomber amoureuse de.
Mais pourquoi? Je veux dire, il y a plein de mangas qui sont super.
Ouais, mais j'aurais du mal à trouver
le pendant humain.
Le pendant humain, alors que tu peux peut-être trouver le même que.
T'étais pas amoureuse de Dragon Ball?
Je dis quoi. Moi, c'était plutôt Jeanne et Serge.
Ah oui, Jeanne ou Serge?
Les deux ensemble. Coup de fou de match de volleyball.
C'est quoi sinon le personnage qui vous a le plus rendu dingue dans
en
les
mangas?
Non, on a la série en général.
En humain.
Ah, moi, en humain, le dernier, c'est le prêtre dans,
dans Fleabag. Hashtag Hot Priest. Ah, mais évidemment.
Voilà, c'est,
c'est fou, hein.
J'avoue que j'ai un peu succombé aussi.
Ouais, bah l'acteur, il est dans mon équipe.
Il est dans ton équipe?
Ouais,
c'est
vrai.
C'est vrai.
Dans ton équipe.
Ouais. Je savais pas.
Il est PD.
Ah, ouais, d'accord. Je serais jeté sur le volleyball.
De squash.
Et toi, Iris, ton fantasme absolu actuel?
Moi, j'aime beaucoup une série en ce moment qui est sur Canal+, qui s'appelle Work in Progress, qui est vraiment géniale. Et je dois dire que j'ai un méga crush sur les deux personnages principaux, qui est donc une femme lesbienne obèse de plus de 45 ans et son petit ami, qui est un homme trans. Je trouve que c'est une série assez sexy en ce moment, même s'il baisse dans le noir. Donc, du coup, c'est peut-être encore plus sexy.
T'imagines, quoi?
Ouais.
C'est comme une sorte de podcast, finalement.
Exactement.
Pour aller plus loin sur le thème sexe-série, je vous recommande le petit manuel Sex Education avec des photos de la talentueuse Charlotte Abramo et In English, le dernier livre de la célèbre showrunneuse américaine G. Soloway, dont on a parlé tout à l'heure. Ça s'appelle She Wants It, Desire, Power and Toppling the Patriarchy, un beau programme. Et elle raconte avec force et humour son parcours.
C'est le moment pour les coquins et les coquines. Le moment pour les aficionados. Je parle juste avec l'accent du sud, il n'y a aucune blague, c'est nul. C'est le moment pour les aficionados de sons et de mots qui font tout dur dans la quéquette et la zigoune de continuer l'émission et pour les oreilles chastes de s'arrêter ici puisque nous allons passer au moment explicite de l'émission. Alors pour ce Lob Story spécial sexe et série, on s'est dit qu'on allait utiliser l'expertise de nos invités, Cathy et Iris. On a trouvé une fanfiction érotique d'une des séries les plus populaires et les plus chastes du monde, c'est Friends. Donc on va vous lire ce texte qui a été écrit donc par un fan. Vous connaissez les fanfictions?
Oui.
C'est des fans qui écrivent. Je fais comme si je voulais expliquer, mais j'explique aux gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas. C'est un petit tricks d'animation. Et donc on va lire ce texte écrit par un ou une fan. On ne sait pas encore l'identité sexuelle de la personne qui a écrit. Et on s'arrêtera de temps en temps pour vous demander votre avis de professionnel sur ce texte.
Je commence. Attention, il y a du haut niveau. Ce jour-là, le Central Perk était plutôt vide à cause de la Thanksgiving. « Il y a plus tard », s'exclama Joey, « et je m'ennuie ». Les 6 amis étaient affalés sur le canapé au beau milieu du café. « Oh, je sais !» cria Phoebe. « On devrait faire une partouze !» Soudain, Ross prit son synthétiseur et joua un morceau. Tout le monde commença à se déshabiller.
Alors là, Cathy, au niveau de la mise en place de la situation, on est comment en termes de crédibilité?
Là, je vais avoir du mal à placer la caméra pour...
dans un truc vraiment de point de vue et d'expérience féminine.
Mais en pur
féminine.
Texte, en pur texte.
Bon, c'est complètement crédible.
C'est crédible.
Je les vois
crédible.
Tous. Okay. On attend cet épisode où ils partent tous.
On continue. Joey tira la culotte de Monica sur le côté. Monica gémit quand il inséra gentiment un doigt en elle. « Oui, Joey, doigte-moi » supplia-t-elle. Elle avait souvent imaginé le doigt de Joey en elle, mais elle n'avait pas réalisé que ses doigts étaient bien plus épais. Il avait posé sa main sur son pubis afin d'appuyer sur son clito à chaque fois que son doigt entrait. Alors que Monica allait atteindre l'orgasme, Joey approcha ses lèvres du clito et se mit à le sucer. « Yeah, baby !» cria Chandler. Phoebe se pencha vers lui. Waouh, moi aussi j'ai envie de doigter Monica.
Une petite question pour Iris, là, tu as plutôt l'impression que ça a été écrit par un homme ou par une femme?
C'est une très bonne question. J'allais commencer à penser c'est vraiment un mec qui a écrit ça et puis là tout d'un coup j'ai un doute.
Ah, ouais. On a un indice quand même.
Bah, le clitoris, ouais, donc on se dit que c'est peut-être plus une femme.
Et ben, parce qu'elle sait où c'est. Je suis pas sûre parce qu'en fait le surnom c'est Dudeman 85.
Alors on sait pas, on sait pas si c'est une fille ou un garçon, on sait pas. Mais a priori, ce serait plus une fille, selon toi.
Non, je sais pas. Enfin, je suis contente que ce garçon sache où est le clitoris. Après, on n'est pas sûr parce qu'on n'est pas dans la caméra. Donc, de quel... Enfin, voilà.
Oui.
Il y a une suite très gratinée. Troisième extrait. Alors, pour épicer un peu les choses, pour les choses encore plus un peu olé-olé, on a traduit avec Google Translate, en fait, le texte qui était à la base en anglais, comme les sous-titres des séries piratées. Chandler se masturba en les regardant. Rachel le regarda avec passion. « Tu vas me laisser ça ?» elle a demandé. Chandler voulait sa bite dans la bouche de Rachel depuis 20 minutes. « Mettez-le » murmura-t-elle. Il le lui a donné et a été compensé par une succion humide et chaude. Phoebe retira sa bouche de la bite de Joey. « Va me faire foutre, Joey Tribbiani » a-t-elle dit.
Alors, Cathy et
c'est
Iris,
fuck me.
C'est « va me faire foutre » traduit. Cathy et Iris, à votre avis, là, on perd un peu du sens avec la traduction. Est-ce qu'il y a des petites subtilités qu'on perd ou on a quand même l'idée
C'est vrai, c'est subtil. Hein. On sent bien le conflit intérieur de chaque personnage qui donc donne une architecture vraiment passionnante à ce récit. Enfin, vraiment, c'est nickel.
On est sur une bonne trajectoire de personnage. Ouais. Ouais. Ouais, bonne trajectoire.
Allez, on finit avec le quatrième et dernier extrait. Joey a continué à baiser Phoebe, faisant de son mieux pour ne pas jouir. Mais il ne pouvait plus tenir le coup. Il s'est rapidement retiré, souleva sa bite dure et humide et aspergea sa semence sur le dos de Phoebe. « Ouais, c'est ça, jouis sur moi, sale connard, espèce de con !» dit Phoebe. On ne sait pas pourquoi. Et tout à coup, un homme avec un chapeau de cow-boy qui masquait son visage fit irruption dans la pièce. Tout ce qu'on pouvait deviner de lui, c'était un sexe turgescent. Tous les friends se tournent vers lui et se demandent qui il est. D'ailleurs, Rachel, toujours la main dans Monica, dit « Qui êtes-vous » L'homme mystérieux répondit « Je suis l'auteur de cette histoire, » dit-il en se masturbant. « Et je suis brillantissime. » Ross était abasourdi. « Waouh, vous êtes carrément excellent, mais vous avez d'autres projets ?»« Oui, » répondit-il, « j'ai plein de projets de série. Si jamais Cathy Vernet est intéressée, je peux lui proposer. J'ai un 10 fois 26 minutes que les gens de France 4 aiment bien. »
Cool, j'y vais.
Mais ça serait plutôt pour le web et le premier rôle, ce serait Jarry. Donc, Cathy, si tu veux qu'on prenne rendez-vous pour que je te parle de mon projet, il n'y a aucun souci.
Tu lis plus l'histoire, elle est en train de parler à Cathy, là, en fait, de briefer.
Non, c'est l'histoire. Mais Cathy, si tu veux qu'on se voit après l'histoire, moi, je peux parler du projet.
On va passer à la conclusion.
Ouais, ok, très bien.
Crac, crac. Mon 06.
Ok. Crac, crac, c'est fini comme ma carrière d'auteur, apparemment.
Merci beaucoup, Iris Bray. On rappelle que ton ouvrage Le Regard Féminin vient de sortir aux éditions de l'Olivier. On te souhaite beaucoup de succès. Et merci beaucoup à Cathy Vernet. On retrouve ta série Vernon Subutex, toujours dispo sur mycanal.fr. Et on peut aussi se procurer Hard en DVD.
Merci, les filles.
Merci à vous.
Merci également à Maxime Donzel, à Patrick Puydebas et à Stéphanie Estourné. On se retrouve dans 2 semaines. Dis donc, on dirait bien que Crac Crac, c'est une série to be continued ou quoi?
Ouais.
En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission, à mettre un max d'étoiles. Salut à toutes.
Et à tous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.